Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Point de mire vous emmène dans cette émission au cœur de l'Académie nationale de médecine. Créée sous Louis XVIII en 1820, il faut attendre en revanche 1902 pour qu'elle soit installée officiellement rue Bonaparte à Paris. Une académie qui a pour mission de faire progresser l'art de guérir et de conseiller le gouvernement d'après le texte signé par Louis XVIII. Alors est-ce toujours le cas? Entrons sans plus tarder dans les coulisses de cette institution avec le professeur Jacques Lubinet, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine. Jacques Lubinet, bonjour.
Bonjour, merci d'être venu à l'Académie, c'est moi qui vous remercie.
Alors, vous êtes ici au studio de l'Institut de France, vous êtes rue Bonaparte, il n'y a qu'une petite rue à traverser. Pourquoi l'Académie de médecine, avant d'entrer et d'ouvrir la porte de cette Académie, pourquoi l'Académie de médecine n'appartient pas à l'Institut de France, Jacques Lubinet?
Parce qu'elle a été fondée plus tard. L'Institut de France, c'est Napoléon, ou Bonaparte, c'est Napoléon, je crois. Et l'Académie de médecine avait été dissoute sous la Révolution et recréée, ou plutôt créée, parce qu'elle a été créée différemment, par Louis XVIII. Alors c'est pas bon d'être né sous Louis XVIII, on est définitivement considéré comme d'extrême droite, arriéré, tout ce que vous voulez. En réalité, il a eu beaucoup de talent. Premièrement, quand il a créé l'Académie, c'est lui qui a constitué la première liste. Ensuite, les académiciens s'élisent eux-mêmes. Mais dans la liste, il a mis les grands chirurgiens de Napoléon, qui étaient son pire ennemi. Louis XVIII, il a fui toute sa vie, Napoléon. Et bien le jour, 5 ans après 1800, c'est-à-dire Napoléon a quitté la France en 1815, vous voyez, donc très peu de temps après le départ de Napoléon, il a mis le grand chirurgien, qui était Larrey, qui a assisté à toutes les batailles de Napoléon, et Desgenette, avec lequel il avait fait la campagne d'Égypte. Première image d'intelligence et surtout de tolérance, et deuxième image encore plus, je trouve, nouvelle, c'est que ça s'appelle médecine, mais en réalité, ça groupait tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui la santé, c'est-à-dire les médecins, les chirurgiens, les vétérinaires, les biologistes et les hommes d'État qui s'occupaient de la santé. Et tout ça en 1820, c'est formidable.
Alors, bon, j'imagine que cette académie a évolué avec son temps. Comment
je réponds à votre question, oui, à laquelle je n'ai pas répondu. C'est qu'il y a eu beaucoup de tentatives pour relier les deux, parce que c'est ridicule.
Avec l'Institut.
Avec l'Institut, et que ce soit une sorte de section de l'Académie des sciences, qui comporte une section de médecine avec des grands médecins et des grands chirurgiens. Et puis, il fallait supprimer un tout petit peu le nombre des médecins. Alors là, ça s'est mal passé. Ils étaient trop nombreux à chaque fois. Ils disaient non, on va attendre. Ça se supprime facilement. Ça ne peut pas se faire dans l'instant, mais ce sont des fauteuils qu'on ne renouvellera pas. Telle sorte que c'est resté comme ça. Alors, en réalité, moi, j'ai beaucoup lutté contre cette tendance, mais nos relations sont très étroites. Nous avons un comité de travail commun qui se réunit 2 fois par an, et nous avons 2 fois par an des réunions communes, soit rue Bonaparte, à l'Académie de médecine, soit ici, Quai de Conti.
Et beaucoup de membres sont à la fois à l'Académie des sciences et à l'Académie
beaucoup,
de médecine.
Beaucoup, c'est pas vrai, mais quelques-uns. Voilà.
Ma question, avant que vous ne terminiez sur les liens entre l'Académie de médecine et l'Institut de France, c'était l'évolution de l'Académie de médecine.
La médecine s'est transformée. Alors, au début, l'Académie de médecine a été un grand lieu scientifique. C'est-à-dire qu'on a discuté, c'était une grande dame du 19e siècle. C'est là où on a discuté du problème des microbes. Pasteur a été élu membre pour convaincre les chirurgiens que les microbes, c'était important quand on opérait.
Avec, j'imagine, des anecdotes à ce sujet, notamment sur Pasteur.
Oui, on fait des batailles effrayantes, provoquées en duel. Heureusement, le duel n'a pas eu lieu. Mais la naissance de la microbiologie, donc, s'est faite là, en même temps qu'à l'Institut. Mais là, c'était peut-être plus violent, parce qu'il y avait l'hôpital qui était là, les malades, etc. Il fallait appliquer les théories de Pasteur, c'était difficile. Mais les autres théories, la théorie cellulaire, toute cellule vient d'une cellule, malheureusement ça a été dit par un Allemand, donc l'Académie ne voulait pas entendre parler d'Allemagne, et la théorie a été très très longtemps refusée. L'anesthésie Velpo, grand chirurgien qui n'est connu que par ce petite bande là qui permet de faire des pansements, eh bien en réalité, il était contre l'anesthésie. Il a été en Angleterre, il a dit non. Je trouve ça trop dangereux. Et puis il est retourné 5 ans après en Angleterre pour autre chose. Il a visité un hôpital et il s'est aperçu qu'en réalité la méthode était assez au point. Et ça, il a été très courageux à la même tribune de l'Académie, et il a affirmé que l'anesthésie était nécessaire et devait être installée en France. Alors, ça définit assez bien notre attitude. On se trompe. Il est très difficile en médecine d'avoir toujours raison. Pour ne pas dire, c'est presque impossible. Mais je crois qu'une des qualités de l'Académie, c'est de reconnaître nos erreurs.
Poursuivons sur l'émission et après nous allons ouvrir la porte de cette Académie de médecine rue Bonaparte. L'émission aujourd'hui de l'Académie de médecine par rapport à d'autres institutions telles que la Haute Autorité de Santé, le Conseil National de l'Ordre, qui aujourd'hui sont, je dirais même plus, pardonnez-moi Monsieur Binet, mais plus connues l'Académie de médecine.
Bien sûr.
Alors comment vous vous positionnez par rapport à ces institutions
gouvernementales ? Autrefois l'Académie de médecine faisait tout. Elle était le Conseil de l'Ordre, elle était l'endroit scientifique, et elle régentait tout ce qu'on pouvait régenter dans le monde de la santé. Puis peu à peu, d'autres structures ont dû naître. Et actuellement, sous le ministre, il y a une série d'agences qui règlent le problème des aliments, le problème de la surveillance des médicaments, beaucoup de problèmes. Et notre rôle, c'est d'être, si je peux dire, d'avoir une fonction transversale. Il faut qu'on travaille en parallèle avec eux, mais en essayant d'associer plusieurs agences, si vous voulez. Les agences sont des structures énormes. Il y en a qui comportent 1000 personnes. Bon, alors, il y a 130 académiciens, il y a autant de correspondants, on ne peut pas répondre à ce genre de choses. Notre force, si elle existe, c'est justement d'essayer de faire intervenir les uns et les autres, de les écouter, et de nous n'avons aucun rôle exécutif. Nous n'avons qu'un rôle
consultatif.
D'autre part, on a une force, on n'est pas payé. Donc on n'est pas acheté.
Alors, quel est votre budget ? D'où vient-il ce budget ?
De veuves d'académiciens. Autrefois, les médecins étaient riches et mouraient assez jeunes. Et quand ils n'avaient pas d'enfants, très souvent les veuves donnaient. Donc, il ne faut pas exagérer, le gouvernement nous donne un petit peu, mais très peu. De telle sorte que, par contre, le gouvernement paie le personnel qui n'est pas le personnel académique. Un académicien gagne 500 euros par an. C'est rien. Ça lui permet de dépendre de personne, y compris du gouvernement. Et ça, c'est une certaine force. Nous avons une grande liberté de penser. Je ne suis pas sûr qu'on l'utilise assez bien. Et très souvent, on se laisse couler par le moule ambiant, si vous voulez. Donc, pour le moment, tout ce qui est administratif, médical, c'est l'ordre des médecins. Bon. La Haute Autorité chapeaute tout ce qui est ministère. Bon. Mais nous travaillons beaucoup avec elle. Et les agences sont chacune spécialisées. Et nous essayons de travailler avec elle. Donc, on travaille beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'on ait des résultats très spectaculaires. La seule chose que je peux affirmer, c'est l'honnêteté et le sérieux des communications et des rapports de l'Académie, parce que c'est fait très sérieusement. Voilà.
Poursuivons, si vous le voulez bien. Entrons dans ce lieu prestigieux qu'est l'Académie nationale de médecine.
D'abord, il y a l'entrée. Vous avez raison. L'entrée, c'est l'histoire. C'est-à-dire que figurent les chirurgiens de Napoléon. Et figure notre fondateur, qui était un vieux filou, ami de Louis XVIII, et qui a soufflé à Louis XVIII l'idée de refaire une académie de médecine. Refaire parce qu'il existait, avant la Révolution, une société royale de médecine. Ce médecin, qui s'appelait le baron Portal, n'a pas fait grand-chose. C'est Louis XVIII qui a eu l'idée, encore une fois, de reprendre les grands chirurgiens de Napoléon et de grouper tout ce qui concerne, non pas la médecine, mais la santé. Parler de la santé en 1820, c'est assez révolutionnaire, si vous voulez. Et ça, ça se voit dans l'entrée. Il y a les statues, les grands bustes de ces généraux, il y a les donateurs. Et puis ensuite, on rentre dans le domaine vrai de l'Académie, qui doit tout à un grand architecte, qui s'appelle Rocher, Justin Rocher, totalement oublié, qui est un architecte 1900. Il pourrait être considéré un tout petit peu comme le Guimard, mais pour les établissements publics. Guimard était le grand architecte des gens riches d'Auteuil. Bon, eh bien, il travaille comme Guimard. C'est-à-dire qu'on retrouve les obsessions de Guimard. Je ne suis pas sûr que les deux personnes ne se soient jamais vues dans la vie, parce qu'ils étaient d'une origine sociale, ils avaient une clientèle qui était très différente. Mais Guimard et Rocher s'intéressaient à la couleur. Et vous voyez, il y a une faute. J'ai commis une faute. Quand je suis arrivé comme perpétuel, il y avait un tapis qui était usé. Et on m'a demandé, une première question, de signer la réparation, ou plutôt la réfection d'un nouveau tapis. J'ai signé parce que je pensais un peu à autre chose. Et quand on a enlevé l'ancien tapis, je me suis aperçu qu'en réalité, l'escalier d'honneur était polychrome. Et que cette polychromie était cachée par le tapis. Et vraiment, il y a une obsession de couleur. Il y a de temps en temps, dans la salle des bus, par exemple, une sorte d'aquarelles qui sont là pour le plaisir de la couleur. Donc, la couleur, le fer forgé. Obsédé par le fer forgé. Et dans le fer forgé, l'écriture. Ça, c'est très Guimard. C'est ce qu'on voit dans les stations de métro. Eh bien là, il joue avec A et M. Et il va continuer à y jouer, puisque le même architecte ensuite construira l'hôpital de la Pitié, et là encore. Et ça, ça a été découvert par le très bon conservateur actuel du musée Jacquemart André. C'est lui qui a vu ça pour le premier. Il a vu qu'en réalité, à cet hôpital de la Pitié, qui est peut-être pas parfaitement entretenu, où l'architecture a quelques difficultés à apparaître comme elle était autrefois, eh bien, beaucoup de choses ont été faites dans l'esprit 1900.
Et justement, pourquoi avoir construit cet édifice en 1900 avant l'Académie nationale de médecine était
où ? Se promenait.
Elle se promenait.
Elle n'avait pas beaucoup d'argent, donc elle s'est promenée dans un appartement de la rue de Poitiers, puis ensuite dans une petite église qui existe toujours, qui est au coin de la rue des Saints-Pères et du boulevard Saint-Germain. Et puis, l'État français a offert à l'Académie un nouveau bâtiment. Elle a fait construire pour l'Académie ce bâtiment qui est collé à l'École des Beaux-Arts. Alors, le centre du bâtiment, ce qui est le plus intéressant, c'est quand même la grande salle.
La grande salle des séances.
Et il l'a fait avec beaucoup de talent. Et en particulier, il y a une coupole, mais la coupole laissait passer la lumière du jour. Parce qu'en 1820, on aimait bien la lumière du jour, comme dans la salle des bustes. Il y a des grandes, avec sans doute un éclairage et un peu de brun. Vous voyez, c'était blanc et brun, comme dans certaines pièces du musée d'Orsay. C'était les couleurs de l'époque. Et puis, maintenant, nous travaillons... les réunions sont scientifiques, donc on travaille dans le noir, il faut projeter
des visuels,
courbes,
oui.
Enfin, des statistiques, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc on a bouché, et à ce moment-là, il y a un peintre qui est venu peindre une fresque que personnellement j'ai trouvée très laide, qui était une vieille dame qui est en train de mourir.
C'était en 87.
C'était en 87, c'est ça. Et secouru par un monsieur presque aussi vieux qu'on voulait être Hippocrate. Et il s'est aperçu, d'ailleurs c'est sûrement quelqu'un qui avait une autocritique, il s'est aperçu que ça allait mal à la salle. Sa fresque était bleue. Et alors avec beaucoup de courage, une certaine désinvolture, l'Académie n'était pas encore classée, il a tout repeint en bleu.
Mais
le fer forgé
plus de problème.
Était bleu, le bois était bleu, la moquette était bleue. Pour mettre en valeur
la fresque.
Absolument. Et c'est un architecte des monuments historiques. On dit toujours beaucoup de mal d'eux, mais ils ont quand même beaucoup de talent. Qui, quand il est arrivé dans l'Académie, il m'a dit, c'est pas possible, votre salle, elle n'a pas été faite en 1902. Elle est récente. Il n'est pas possible qu'un architecte de 1902 ait utilisé ces couleurs. Et c'est lui. Alors la seule chose qui restait d'époque, c'était quand même les fauteuils et les bureaux. Ça, c'était en bois, il n'y avait pas touché. Il avait touché aux portes, mais il n'avait pas touché aux fauteuils. Et il s'est aperçu que c'était faux. Alors nous, il fallait refaire l'Académie, pas du tout pour l'esthétisme, il fallait refaire cette grande salle pour permettre l'accès aux handicapés, pour améliorer la sonorisation, pour rajouter des fauteuils. Et quand l'architecte que j'avais choisi, et qui était très bon, qui s'appelait Stinko, qui est un architecte des musées, après l'affaire en main, il a commencé à faire ce travail. Ensuite, nous sommes arrivés sur la couleur. Et lui, qui est un architecte très contemporain, très moderne, c'est lui qui a refait le jeu de paume, là, a travaillé avec une prudence presque excessive. C'est-à-dire qu'il a dit, on va voir ce qu'avait fait d'abord Justin Rocher. Et l'entreprise de peinture a commencé à travailler en faisant des petits coups de sonde, à regarder ce qu'il y avait au-dessous. Et alors là, le chantier était un chantier heureux parce qu'on découvrait toujours des choses. On a découvert des plaques de marbre, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Et puis ensuite, on a découvert la dorure. Le bleu avait tout recouvert, y compris les dorures, qui sont partout. Peut-être un peu trop, mais ça correspondait au goût de l'époque.
et qui était recouverte de bleu. Et puis, alors on a restauré, il y avait là encore non plus la statue d'Hippocrate, mais un masque d'Hippocrate qui était doré et qui était devenu bleu. On l'a toujours connu bleu, vous voyez, comme un clin.
Donc il est devenu doré.
Et alors, on a retrouvé la dorure. Et puis, le grand plaisir a été l'endroit qui est juste derrière Hippocrate, et une espèce de rotonde, où il y avait un petit ciel. Je dis un petit ciel parce que c'est un ciel moche, avec des petits nuages. Et puis peut-être un oiseau.
À chaque fois, vous ne mâchez pas vos mots, Jacques Louis-Binet.
Non, mais c'était moche. Alors, quand on est habitué à vivre dans le moche, on ne s'en aperçoit plus. Mais quand les peintres ont découvert derrière ce bleu cette couleur que je ne sais pas définir, qui est un gris très subtil. J'appelais ça le gris Dior, parce que les boutiques de Dior étaient souvent peintes de la même manière. Et plus exactement, c'est le même gris parme, prune, je ne sais pas très bien ce qu'il faut définir, et que vous retrouvez au pont Alexandre III, avec cette architecture, qui est celle de la même époque, et qui joue très bien avec les dorures du pont. Oui, quand elle est refaite aussi. Alors, je dois dire que quand on a trouvé cette peinture, explosion de joie dans tout le chantier, parce qu'enfin, on avait trouvé la couleur qui devait être la dominante.
Donc, ça faisait partie des bonnes surprises.
Hop, on la remet là-haut, au niveau de la coupole, pour cacher Notre-Dame, qui est toujours là. Je n'ai pas le droit de l'enlever. Enfin, elle est cachée, la peau. Bon. Et puis, il fallait faire quelque chose d'autre. Et quand même, comme j'aime beaucoup l'art contemporain, mais que j'étais très serré là, par mes architectes des monuments historiques...
C'est vous, le secrétaire perpétuel, qui choisissez...
Oui, enfin là, j'ai pris l'affaire en main. Choisir, je me bats pour. Je n'ai pas tout à fait choisi. Enfin, oui, j'ai choisi. Mais enfin,
ça n'aura pas été fait.
Il fallait que je le fasse admettre par tout le monde, y compris par les académiciens. Georges Mathieu avait dessiné une très belle médaille pour l'Académie, où il avait écrit « Académie nationale de médecine ». Et en réalité, dans l'Académie, il y a beaucoup d'autres inscriptions. Il y a au fond, là, sur ce couleur gris, il y a les académies qui nous ont précédés, la Société royale de médecine, la Société de chirurgie, etc. Il y a juste à côté d'Hippocrate, en or, en chiffres romains cette fois-ci, les grandes dates, c'est-à-dire 1820, création de l'Académie, 1920, installation rue Bonaparte. Donc je ne pouvais jouer qu'avec les mots. Et nous avons pris ce qu'avait écrit Georges Mathieu d'une écriture, tout, comme ses grands peintres, d'une écriture extraordinaire, vous voyez, un peu calligraphique, presque des fautes d'accent, pas d'orthographe, mais d'accent.
Oui, Académie nationale des accents circonflexes. Oui.
Et hop, on a remonté ça là-haut. Et ça, c'est mon plaisir dans l'Académie. Et quand je ne savais pas quoi faire, j'allais voir le chantier pour voir s'ils arrivaient à refaire le Mathieu. Voilà, ça a été une joie. Et notre chance, c'est qu'on dispose maintenant, quand même au centre de Paris, à Saint-Germain-des-Prés, d'une salle de 240 personnes que je prête, que l'Académie prête ou loue. Quand on est riche, on loue. Quand on est pauvre, nous prêtons aux sociétés savantes ou aux réunions scientifiques.
Précisons pour nos auditeurs que vous êtes correspondant à l'Académie des Beaux-Arts.
Oui, mais enfin, ça, l'Académie des Beaux-Arts
explique... Non, mais c'est ce qui explique pourquoi vous nous donnez tous ces détails.
Non, parce que ça m'amusait, le chantier m'a énormément amusé, pour vous dire la vérité. C'est une bataille à l'Académie. J'ai été obligé de faire voter 5 fois. Parce que l'architecte, qui est un très bon architecte, est un architecte jeune et prudent. C'est-à-dire qu'on lui posait des questions, il disait « je ne sais pas ». Alors ça, il ne faut jamais dire « je ne sais pas ». En science, on peut dire « je ne sais pas », mais les académiciens n'aiment pas qu'un architecte leur dise « je ne sais pas ». Et donc, c'était voté, mais 8 jours après, on recommençait le vote. J'ai eu donc droit à 5 votes pour le faire admettre. Là-dessus, mes confrères de l'Académie ont été généreux, parce qu'on a coûté très cher. Très cher, ça coûtait très cher. Et c'était l'argent de l'Académie, c'était pas l'argent du ministère, ni de la Culture, ni de l'Éducation nationale. C'est vraiment notre argent. Et je dois dire que je les ai peut-être un peu ruinés, mais tant pis, parce que j'ai laissé quelque chose, et puis bon...
Et puis le résultat vous plaît.
Et le résultat, je trouve, est un résultat heureux. Actuellement, quand on crée quelque chose dans le domaine de la santé, eh bien, tout le monde va à Saint-Denis. Alors Saint-Denis, c'est pas mal. C'est quand même moins marrant que Saint-Germain-des-Prés. Oui, quand même, on a beaucoup de chance.
Et justement, le public peut-il venir voir la salle ?
Oui, notre séance sont publiques.
Donc alors, c'est les mardis.
Alors, il y a pas foule. Il faut être honnête. Il vient souvent sans logis quand il pleut. Il sait que le mardi, c'est ouvert, donc il monte là-haut. Il y a souvent quelques spécialistes qui viennent pour intervenir, bien sûr, mais les séances sont publiques.
C'est ouvert à tout le monde, comme c'est le principe du Collège
monde,
de France.
Avec quand même, de temps en temps, des séances quand... Les votes sont publics. On vote... Personne n'intéresse personne, les votes. Enfin, ça se passe devant tout le monde. Bon. Et puis, de temps en temps, nous avons un comité secret quand nous avons des votes de structure ou des votes importants qui mettent en cause l'avenir de l'Académie. À ce moment-là, on est mieux. Quand on va se disputer, ça ne regarde personne. Et puis, ces discussions, finalement, finissent toujours bien. Mais les combats sont parfois un peu vifs. Ça a toujours été comme ça. Là. Quand on regarde au 19e siècle, les débats scientifiques étaient terriblement
très animés,
très violents, beaucoup plus que maintenant.
Peut-être que c'est l'âge aussi qui fait que les personnes étaient plus animées à l'époque.
Ah oui, vous voulez dire qu'on est tous des vieux. C'est pas tout à fait faux, mais il y a des jeunes vieux qui réagissent très fortement et nous faisons un grand effort pour admettre des gens plus jeunes et pour donner plus de pouvoir à notre catégorie de jeunes qu'on appelait les correspondants, qu'on appelait membres associés maintenant, parce qu'il faut redonner du sang neuf à l'Académie. Elle a encore beaucoup d'énergie. Je trouve ça très fatigant, parce que je trouve qu'ils en ont presque trop, moi. Mais enfin, bon, je suis là pour les pousser, pour les pincer, pour les entraîner.
Dernière question, Jacques Lubinet. On l'aura compris, ces séances publiques du mardi sont ouvertes au public, donc c'est l'occasion pour n'importe quelle personne qui écoute cette émission et qui a envie de venir à l'Académie de médecine, d'entrer, de voir cette coupole dont vous nous parliez avec...
Puis d'écouter ce qui s'y passe.
Et d'écouter, bien sûr, ce qui s'y passe. Une autre partie de l'Académie nationale de médecine, c'est bien sûr la bibliothèque.
Très riche.
Avec un fonds riche.
Et qui a précédé de très loin la naissance de l'Académie.
Avec des incunables, notamment.
Oui, parce que le premier bibliothécaire était un grand érudit, qui s'appelait D'Arembert, qui, pour vivre, son premier boulot, c'était d'être bibliothécaire de l'Académie. Il ne devait pas payer des fortunes. Mais il était tellement doué qu'il est passé à la Mazarine, qu'il est devenu professeur de grec au Collège de France. Et qu'ensuite, avec Mérimée, il a été envoyé par Napoléon III pour acheter, voler, je ne sais pas trop quoi, des choses importantes en Italie. Des livres importants. Ils sont restés un an. Et ils ont rapporté des choses admirables qui appartenaient, enfin, qui devenaient le domaine de la France. Et puis nous avons eu encore plus de chance. Alors l'Académie a été habile. À son retour, D'Arembert, professeur au Collège de France, devenu bibliothécaire honoraire, je crois, de la Mazarine, l'Académie l'a élu académicien. Il était passé de fonctionnaire à académicien. Il est mort. Et au moment de la mort, il y a eu des accords très faciles, finalement, entre l'Académie et la famille, pour acheter à un prix qui n'était pas le vrai prix, tout ce qu'il avait réuni. Tout ce qu'il avait réuni aussi à titre personnel en Italie. Parce qu'en Italie, il s'était fait aussi cette petite collection. Et tout ça, maintenant, appartient à l'Académie de médecine. C'est-à-dire que la bibliothèque, ce qu'il y a à la bibliothèque, précède de très loin notre installation en 1902 rue Bonaparte.
Avec
heureusement.
Combien d'ouvrages à peu près ?
Je sais pas, énormément. Je vais vous dire n'importe quoi, mais énormément. Énormément. Et nous travaillons en collaboration. Maintenant, on ne peut plus avoir une bibliothèque isolée. Donc, ils travaillent en collaboration avec la bibliothèque qui est installée à l'Académie de médecine. Tout le monde travaille ensemble. Mais nous avons des pièces originales, comme ils ont des pièces originales, et on essaye d'éviter les doublés. Et actuellement, je crois que c'est déjà, je ne sais pas très bien où on en est, mais c'est déjà tout ça sur ordinateur, c'est déjà fiché.
C'est déjà numérisé.
C'est déjà numérisé.
Eh bien, je vous remercie Jacques Lubinet. Je précise que pour réaliser cette émission, nous sommes appuyés sur leur série Connaissance des Arts, que vous avez en très grande partie rédigée.
Oui, j'ai trouvé que c'était plus simple dans ce cas-là, parce que j'avais tellement
on n'est jamais mieux servi par soi-même, c'est ça.
Oui, puis c'était plus facile. Non, mais Connaissance des Arts a accepté qu'on l'écrive nous-mêmes parce qu'on était tellement impliqués que le travail à faire aux journalistes devenait un peu odieux. Pour une fois, on était moins mauvais qu'eux.
Voilà. Eh bien, je reprécise donc le hors-série du Connaissance des Arts, l'Académie nationale de médecine, que l'on trouve en vente sur leur site internet.
Et c'est très important, c'est pas nous qui le vendons. L'Académie n'a le droit de rien vendre, c'est Connaissance des Arts.
Merci Jacques Lubinet, et puis j'espère à bientôt pour une prochaine émission.
Merci.